Chers auditeurs et chères auditrices, nous commençons une nouvelle série qui est intitulée « Les enfants de lumière gouverneront et régneront avec Jésus-Christ sous sa direction, et cela pendant 1000 ans ». Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous avons donc tout d'abord, dans notre étude numéro 1, l'origine de la lumière. Chers amis, pour éviter tout malentendu concernant cette étude, eh bien, nous devons faire une distinction précise entre la lumière solaire, celle qui éclaire notre monde, et la lumière divine, qui est la lumière céleste, ne provenant évidemment pas du soleil. Cette distinction fondamentale est nécessaire pour qu'un esprit irrégénéré saisisse les faits concernant la lumière. Einstein faisait des recherches sur la lumière solaire. Edison cherchait une technique qui la reproduirait. La science recherche son utilité militaire, etc. La lumière solaire implique des éléments d'énergie matérielle et physique. Par contre, la lumière créatrice surnaturelle, qui est divine et éternelle, elle implique le domaine spirituel. Elle seule est omniprésente, puisque la lumière solaire ou stellaire prend du temps pour parcourir les distances. Ainsi, nous parlons d'années-lumière. La lumière divine reflète ou rayonne de l'esprit, que ce soit dans les lieux célestes ou sur les visages des saints qui sont touchés par l'Esprit Saint, contrairement à la lumière transmise ou transitoire du soleil. Il existe aussi une troisième espèce de lumière, c'est celle de la matérialisation des esprits déchus, par lesquels Satan peut se manifester en ange de lumière. Il est donc évident que cette lumière-là est une imitation mensongère et illusoire de la gloire initiale de Lucifer qui, lui, fut enlevé, ôté, tout cela lui a été enlevé à la chute. Jésus est donc venu sur terre afin de révéler la nature divine de son Père céleste. Quand il annonça « Je suis la lumière », il stupéfia le monde encore davantage en affirmant « Dieu et moi, nous sommes un, seule la divinité et lumière ». Albert Einstein, le physicien de renommée mondiale, était un homme humble. Plus de 40 000 livres et brochures ont été écrits sur la vie et sur son œuvre. Mais rien de tout cela ne l'a rendu orgueilleux. Sa vie durant, il fut un pacifiste, et c'est pour cela qu'il a été profondément affligé lorsque, sur les ordres du président des USA, il a eu une grande part dans la construction de la bombe atomique. Peu de temps avant sa mort, en 1955, alors qu'il parlait à la télévision, il dit « La bombe atomique est une production du diable et je suis celui qui l'a promue ». Son neveu, le docteur Joseph Speer, rapporte qu'il fut très malheureux pendant les dernières années de sa vie. « La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Tu sais, mon fils, j'ai découvert quelque chose de terrible dans les domaines extrêmes des mathématiques et de l'astronomie. J'ai détruit tous ces papiers. Avoir commis une seule fois un crime contre l'humanité, cela me suffit. Cela ne m'arrivera jamais plus. et surtout pas une seconde fois. À aucun moment, Einstein n'a fait des expériences avec l'atome dans le but de fabriquer des engins destructeurs. Ce ne fut que à des fins paisibles qu'il faisait ses travaux scientifiques. Néanmoins, ses découvertes ont été utilisées à tort par d'autres, et cela dans un but militaire. Il n'a pas pu empêcher cela, et son sentiment, ça a été que l'homme s'était emparé de la force de la nature et en avait abusé. Peu de temps avant sa mort, il a dit « Le vrai problème se trouve dans les pensées du cœur humain. Ce qui fait vraiment peur, c'est la puissance du mal dans le cœur de l'homme et sa capacité pour faire le mal. » Non seulement Einstein s'opposait à la guerre, mais il était profondément religieux. Il a dit « Ma foi repose dans la simple adoration de Dieu qui s'est révélée dans les moindres détails de la matière. Ma conviction intime est profonde de l'existence de Dieu qui s'est manifestée dans tout l'univers. C'est le fondement de mon existence et de ma foi. Au sujet de Jésus, pour qui il avait le plus grand respect, il est vrai, il a dit, il est vrai que je suis un juif, mais l'image rayonnante de Jésus de Nazareth, cela m'a fait une impression irrésistible. Personne n'a exprimé la lumière comme lui. Il n'existe qu'un seul endroit où l'on ne voit aucune obscurité, et cet endroit se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est en lui que Dieu s'est manifesté le plus clairement, et je le vénère. Combien vraies ont été, on peut dire, les dernières paroles d'Einstein lorsqu'il a reconnu qu'en Jésus, il ne voyait aucune ombre. La sainte parole de Dieu dit qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Jésus était donc le Fils de Dieu. Il était l'empreinte de la substance du Père qui ne pouvait d'aucune façon comporter la moindre trace de ténèbres. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Quelle chose merveilleuse que Einstein, qui avait découvert tant de mystères concernant la lumière, ait pu trouver que la lumière éternelle, surnaturelle, en Jésus de Nazareth, était exactement la même que celle qu'il voyait dans le Dieu des Juifs. Chers amis, ce siècle est remarquable par ses progrès scientifiques énormes. La science exacte ne contredira jamais la sainte parole de Dieu. Le physicien de renommée mondiale, Albert Einstein, a remis l'humanité sur le vrai chemin lorsqu'il a donné au monde sa grande théorie de la relativité qui a rapporté à la lumière. Et cette théorie, elle est en accord total avec ce que a été écrit dans la sainte parole de Dieu, voici plus de 2000 ans. Oui, le temps est venu pour que tous les saints de la lumière connaissent et qu'ils comprennent la théorie de Dieu concernant nos relations avec la lumière. Lorsque nous la connaîtrons et que nous la comprendrons, nous entrerons dans une nouvelle et puissante dimension avec notre Dieu. Essayons tout d'abord de comprendre l'origine de la lumière. La lumière, c'est la plus grande des œuvres qui a été créée par Dieu. La création la plus importante et la plus puissante de Dieu, c'est la lumière. Sans elle, aucune forme de vie n'existerait. Elle est à la base de toutes les œuvres qui ont été créées par Dieu. Tous les miracles concernant et commençant avec l'ordre divin, quand il est dit que la lumière soit, selon la Genèse, chapitre 1, verset 3. Eh bien, cette lumière n'est pas celle du soleil, elle n'est pas celle de la lune ou des étoiles, mais ces corps célestes ont été créés plus tard, selon la Genèse, chapitre 1, verset 14 à 19. Mais l'appel de la présence du Seigneur de gloire sur une planète dans un état de chaos, de désolation et sans forme, tout cela au milieu d'un vaste univers comprenant des milliers de planètes, d'étoiles et de corps célestes. Donc, l'Esprit de Dieu planait sur la face de cette désolation, et cela depuis l'abîme le plus profond de cette planète. Alors, la voix de Dieu se faisait entendre au milieu du chaos, et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu a vu que la lumière était bonne. Genèse chapitre 1, verset 4. La lumière est toujours associée au bien, parce que sa source, elle se trouve en Dieu, et Dieu est bon. Psaume 86, verset 5. Le mot hébreu désignant la lumière en Genèse chapitre 1, verset 3 est illumination, éclairage, bonheur, brillant matin et soleil. Il signifie également être, produire. Il signifie également aurore, glorieux, allumé et briller. Donc, la lumière, elle a les attributs de Dieu. Dieu est intimement lié à la lumière tout au long de la Sainte Bible, car c'est lui le créateur de toute lumière. La gloire de Dieu, elle était souvent vue sous forme d'une lumière lorsque sa présence se manifestait au temps biblique. Voyez-vous, lorsque Dieu a dit que la lumière était bonne, il attestait que la lumière a les attributs que sont la beauté, la bonté, la générosité, la grâce, le bonheur, la bienveillance, la joie, le plaisir, la valeur, la fertilité, la prospérité et l'indulgence. Dans Genèse, chapitre 1, verset 4, cela signifie toutes ces choses. En effet, la sainte parole de Dieu dit et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 4. Le mot séparer en hébreu est badal. Ça veut dire diviser, séparer, différencier, couper et discerner. Depuis ce moment-là, il y a eu une grande différence entre la lumière et les ténèbres. À la création, ce sont les ténèbres qui régnèrent sur cette planète. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, nous est-il dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. Mais quand Dieu créa la lumière, elle triompha des ténèbres, car elle est la plus puissante des deux. Les ténèbres sont la conséquence de l'absence de lumière. la lumière chasse toutes ténèbres, si, voyez-vous, si vous entrez dans une pièce sombre et que vous allumez la lumière, le noir disparaît instantanément, éteignez la lumière et le noir revient. La lumière, elle domine et elle est plus grande. Ainsi, le Seigneur de lumière, Jésus, est plus grand que le prince des ténèbres, Satan. Regardons un instant le mot « ténèbres » dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Cela est traduit du mot hébreu « choshek », signifiant « ténèbres, misère, destruction, mort, ignorance, chagrin, méchanceté, nuit, obscurité et mensonge ». Cela va de pair avec la malédiction et avec le jugement, et cela signifie parfois une vision détériorée. Chers amis, je crois que lorsque Dieu créa cette planète au début, ce ne fut pas dans l'imperfection et dans le chaos décrit en Genèse chapitre 1, verset 2. Il y a eu un terrible holocauste et qui a été vraiment quelque chose de terrible, une désolation sur toute la planète. Or, Dieu seul sait combien il y a eu des millénaires entre le verset 2 et le verset 3, lorsqu'il a mis sa lumière afin d'accomplir cette grande œuvre de création, et quand il a dit ces paroles qui ont retenti à travers les siècles, que la lumière soit. Il est très intéressant de connaître l'origine de ce nom extraordinaire, Elohim, pour Dieu. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les yeux et la terre. Genèse, chapitre 1, verset 11. En hébreu, ce nom masculin, Elohim, se trouve au pluriel. Dans cette forme plurielle, il s'applique à des dirigeants, des juges et à des anges. Certains spécialistes pensent que Elohim a un rapport étymologique avec El, ce qui veut dire le nom au singulier de Dieu. Le nom Emmanuel, ce nom comprend ce petit mot de deux lettres, El, voulant dire Dieu. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et elle l'appellera par ce nom Emmanuel. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Donc, dans la Genèse, il est dit « Et la terre était désolation et vide. » Genèse chapitre 1, verset 2. Regardons cette phrase curieuse un peu de plus près. Elle parle de l'histoire ancienne de cette planète et devrait donc susciter en chacun de nous un grand intérêt. Le mot « était » au passé exprime une existence continue pendant une certaine période de temps. Quelle période incommensurable y a-t-il eu entre les versets 1 et 2? Eh bien, Dieu seul le sait. Quelle que fût la durée de ce temps-là, cette planète était dans un état de désolation. La description qui est donnée dans la version de King James elle nous dit que la planète était sans forme, une terre stérile de désolation et vide. Il n'y avait ni structure, ni forme, ni beauté sur cette planète Terre. Elle ressemblait à une gigantesque masse de lave incandescente dont l'apparence devait ressembler aux conséquences d'un terrible ou d'une terrible explosion jusqu'à ce que Elohim la touche et que son esprit puisse venir planer sur les eaux. Alors que l'esprit de Dieu planait, un éveil se faisait à la fois dans le cœur d'Elohim et dans la semence, cette semence perdue et dévastée de cette planète. Lorsque Marie a demandé à l'archange Gabriel « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Saint Luc chapitre 1 verset 34. Gabriel lui a répondu, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Saint Luc chapitre 1 verset 35. Marie conçut dans son sein la semence miracle de vie quand l'Esprit de Dieu étendit son aile sur elle. Le Créateur Elohim se divisa lui-même toute forme de vie fœtale et créée par division et multiplication. Les cellules se divisent et se multiplient constamment pour former le corps de l'enfant. Et Dieu visita son sein sous forme de fœtus humain. Il put faire cela, étant tout-puissant. Il créa un corps humain qu'il habita afin de visiter l'homme sous la forme d'un homme, afin de ressentir la faiblesse de l'homme pour le restaurer et qu'il devienne ce qu'il devait être à l'origine, c'est-à-dire un fils de lumière et de gloire. Amen. De la même manière, Dieu créa ses premières œuvres connues lorsque l'Esprit Saint de Dieu plana sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Chers amis, quand Dieu sépara la lumière des ténèbres, il créa plus que notre jour et notre nuit. Il créa deux manières de vivre. La voie de la lumière, qui est celle de la joie, la fécondité, le bonheur, le contentement et la prospérité, séparant ainsi pour toujours la lumière d'avec le labyrinthe des ténèbres, de la tristesse, de la destruction, de la mort, du chagrin et de l'ignorance qui est appelée la nuit. Le mot « jour » en hébreu ne signifie pas simplement une période de 24 ou de 12 heures. Il peut vouloir dire aussi le présent, un laps de temps, la période de temps qui se trouve éclairée. Il est donc associé avec la souveraineté de Dieu et il est contrôlé par lui, car il créa le temps et il était avant que le temps n'existât. Il a été donné à l'homme un jour de vie dont dépendra son éternité selon son choix. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler ou de faire ses preuves. Saint Jean, chapitre 9, verset 4. Donc, le jour est un temps de repentance, de salut, et c'est l'occasion de choisir le bien. Le mot « nuit », ce mot signifie « se dégager de la lumière », c'est-à-dire « aller vers la nuit ». Puisque Dieu a créé le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, il a aussi autorité sur les ténèbres. Certaines des œuvres les plus grandes de Dieu ont été accomplies de nuit, telles que la naissance de Jésus, la nuit de la Pâque, Gethsémané, la visitation des anges auprès de Jacob à Bethel et sa lutte avec le Seigneur à Péniel. Nous avons tous connu notre nuit noire de notre âme, quand après l'agonie d'une sombre et longue nuit, Dieu nous a visités et Dieu nous a parlé au petit matin, alors qu'un jour nouveau s'est levé, faisant briller une lumière tellement glorieuse, si éclatante qu'on en oubliait la douleur et l'angoisse de la nuit. Gloire soit donc à Dieu pour la nuit tourmentée dans notre vie. Si elle vous entoure encore en ce moment, ne la combattez pas, mais saisissez-la avec reconnaissance. C'est l'occasion de mieux connaître Dieu. Ne désespérez donc pas, car elle passera, et avec le jour viendra la joie. Oui, le jour doit suivre la nuit, car la lumière, elle doit suivre les ténèbres. Ou bien, Dieu n'est pas Dieu. Oui, Dieu créa la lumière. Elle recouvre cette planète et toute sa création. Donc, sa lumière remplit tout l'univers, car il est omniprésent, et là où il est, là se trouve la lumière. Amen. Chers amis, nous allons prier. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est de plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions donc ensemble. Seigneur, souffle sur moi le souffle divin de la guérison. Remplis-moi d'une santé nouvelle, afin que je puisse aimer ce que tu aimes et faire ce que tu fais, Seigneur. Jésus-Christ, permets que mon cœur, âme et esprit deviennent purs jusqu'à ce que ma volonté soit en harmonie avec ta volonté. Souffle de vie, rends-moi tel que je puisse entièrement t'appartenir. Permets que cette partie terrestre qui est la mienne puisse s'embrasser de ton feu divin. Seigneur, tu es venu à nous sur la base de la substitution. Tu nous offres par le Saint-Esprit la vie parfaite. Oui, de ta vie, Seigneur Jésus-Christ, éternellement. Guéris, Seigneur, ceux qui s'approchent de toi après avoir écouté ce CD et libère-les de toutes leurs souffrances. Je te le demande de tout l'amour de mon cœur. Amen. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu vous aime et à demain matin, Dieu voulant, la suite de cette série nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir, chers amis.